En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On commence par vérifier la posture. Toujours passer quelques instants pour placer le corps en méditation. Puis l'esprit doit rester détendu, spacieux, conscient de ce qu'est l'instant présent, tel qu'il est. Pour cette conscience de l'instant présent, on le place sur un support, tel que la respiration. Et garder l'esprit détendu veut dire accepter que dans cet instant présent, tout peut s'élever dans l'esprit, tout peut être expérimenté. Absolument tout. Des choses agréables, des choses désagréables, tout peut apparaître dans l'esprit. Il n'y a rien à trier. Ce qui apparaît dans l'esprit apparaît à partir des conditionnements de notre esprit. Et quand une pensée s'élève, sans perdre conscience du support, nous sommes conscients de sa présence. Mais nous ne lui donnons aucune importance, c'est-à-dire ni on la retient, ni on la rejette. Considérez que c'est tout à fait normal qu'elle s'élève dans l'esprit, mais qu'elle, sa nature même est de traverser l'esprit. C'est du mouvement, ce n'est qu'une pensée. Sans perdre conscience du support, nous sommes conscients de cette pensée et on la laisse passer. Et on agit de même pour chaque pensée, pour chaque perception, pour chaque sensation et pour chaque facteur mental. Dans cette méditation, essayez d'expérimenter que si l'esprit ne saisit pas ce qui s'élève, alors il reste tranquille, paisible. Il n'est pas perturbé. En d'autres termes, il est libéré de dukkha. Quel que soit l'élément qui s'élève, s'il ne saisit pas, alors il est libéré de dukkha. Donc ne craignez pas ce qui s'élève, simplement ne saisissez pas. Alors, est-ce que ça devient plus clair pour tout le monde?
Plus clair.
Quoi donc? Plus clair.
Je me représente des choses plus claires. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire.
Non, mais j'allais demander, est-ce que ça devient plus clair pour tout le monde que c'est la saisie de ce qui s'élève dans l'esprit qui cause dukkha? Et que ce qui s'élève n'a pas la nature de créer dukkha dans l'esprit. Malgré toutes les pensées que l'on peut avoir, malgré les sensations aussi que l'on peut avoir, hein, si on a une douleur dans le genou en étant assis, malgré les perceptions que l'on peut avoir, si l'on a froid, si l'on a chaud, si l'on entend du bruit, si, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous arrivez... Pardon, que vous arrivez à expérimenter quand vous méditez? Oui, sûr, oui.
Mieux,
oui,
mieux,
oui.
Non, mieux. C'est pas encore, mais c'est mieux. Ça avance le temps.
Mais de temps en temps, voilà, vous en faites l'expérience.
Oui. Bon.
Ça, c'est. Pardon?
Quand on a des pensées, quand une pensée surgit, on a envie, enfin, j'ai envie de, effectivement. Mais j'essaye de pas la travailler.
Et qu'est-ce qui se passe alors?
C'est plus... je repars dans la sérénité de la pratique. Je me sens moins perturbée que si j'essaye de la chasser ou de penser à autre chose. Ouais. Donc c'est ce que avant j'essayais de faire.
Voilà.
Oui, mais il y a des fois qu'elle est accrochée. Et qu'est-ce qu'on fait après?
Et des fois qu'elle est accrochée.
Là, c'est pas ce qu'il faut.
Oui, non, il faut simplement décrocher, se décrocher d'elle.
Voilà.
Voilà. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème si on n'y arrive pas à tous les coups. Hein, ça, c'est pas un problème. Avant d'y arriver à chaque pensée, à chaque sensation, à chaque perception, voilà, il va falloir un certain entraînement. Donc, ne vous dites pas. Je n'y arrive pas à tous les coups, donc je médite pas bien, je suis un mauvais pratiquant ou des choses de ce genre. Hein. Simplement expérimenter de temps en temps. C'est très bien si vous expérimentez déjà de temps en temps que c'est la saisie qui entraîne dukkha, qui fait naître dukkha. Ce genre d'expérience, mais c'est vraiment très très important. Quoi. Et ça, c'est chiné. Chiné, ce n'est pas synonyme d'un état de calme où plus rien ne se passe dans l'esprit. Quoi. Ou alors je construis, vous savez, un état de calme parce qu'à force d'entendre rabâcher, chiner, à force de lire des livres sur ce qu'est chiner, la méditation du calme mental, etc., eh bien on construit une image de ce que doit être l'esprit calme. Et on a tout faux. On a tout faux parce que d'abord cette image ne correspond pas à la réalité. Et deuxièmement, nous n'avons pas à construire. Le calme mental n'est pas quelque chose qui se construit. Le calme mental, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui s'expérimente alors que l'esprit peut être complètement plein de pensées, plein de mouvements, plein de sensations, plein de perceptions.
Mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce qui reste?
La respiration.
Le calme.
Mais
c'est ma question, c'est pas la vôtre. C'est moi qui pose la question. Ne répondez pas par la même question. Voilà, la conscience. La conscience. Voilà. Peut-être, mais ça c'est très bien de dire peut-être, parce qu'il faut que vous en fassiez l'expérience. Voilà, ça c'est. Et ça c'est très bien. Hein? Mais s'il n'y a pas cette conscience claire à ce moment-là, ça veut dire que la conscience, elle est là, mais elle est opacifiée dans cet état sans pensée. Elle est opaque, elle devient voilée. Donc ça, c'est pas bon comme expérience, parce que là, c'est torpeur. Mais par contre, si dans cet instant, dans cet espace entre, on va dire, la fin d'une pensée et le début d'une autre, il n'y a rien qui se passe, mais qu'il y a juste cet état de conscience qui est clair, vive. Qu'est-ce qu'on appelle? Comment on appelle cet état entre deux pensées? Pas Laurent.
Un
présence, ça s'appelle pas l'aura.
Un terme du dharma, comment vous appelez, d'après un terme du dharma que vous direz tous quand je le dirai, mais c'est bien sûr, cet état sans rien qui se passe, juste une conscience claire.
C'est la comme l'humanité.
Oui.
La vacuité.
Oui. Et alors, c'est le Dharmakaya. Dharmakaya. C'est le Dharmakaya. Mais à condition qu'il y ait cette clarté. Vivacité, lucidité. Hein? Ça, c'est très difficile à identifier soi-même.
Oui.
En général, quand on a ce genre d'expérience, il faut aller en parler après.
Ah, oui.
Pour que, par des questions bien précises, on authentifie que c'est bien le calme mental et que ce n'est pas un état de torpeur. Parce que dans l'état de calme mental et l'état de torpeur, il y a des expériences qui sont identiques, à savoir un état total de bien-être, un état d'espace. On sent que l'espace est complètement spacieux, que l'esprit est complètement spacieux, calme, tranquille. C'est un état, une expérience de total bien-être. On appelle ça félicité de l'esprit, mais il manque la clarté de la conscience, la vivacité. Voilà, ça c'est la différence.
L'aspect spatial, il est même affecté aussi. Ah. Je disais, il y a aussi l'aspect spatial dans cet état de torpeur. J'ai l'impression que il n'y a pas l'aspect inobstrué.
Au début, si. Au début. Ouais. Après la torpeur, quand c'est l'état de torpeur, elle va s'opacifier de plus en plus. Donc on perd cet état de cette expérience d'espace. Mais au début, il y a cet espace, il y a cette notion d'espace. Ouais. Voilà. Bon, alors, mais ça, voilà, ça, tant que vous ne me direz pas, vous ne me répondrez pas d'un oui franc, massif et sûr, et que vous ne me disiez pas, on en a ras-le-bol de cette question parce que c'est clair pour nous, donc on passe à autre chose, je vous reposerai toujours cette question. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la saisie qui cause dukkha, et que s'il n'y a pas saisie, eh bien, quels que soient les éléments qui s'élèvent dans l'esprit, l'esprit reste en paix. Parce que ça, quand on expérimente ça, eh bien, on expérimente que la clé de dukkha, c'est notre esprit, et que la clé de notre bonheur, la clé de la libération, c'est notre esprit. Et à ce moment-là, ça devient mais une évidence de méditer, quoi.
Parfois, on l'expérimente plus quelquefois dans la vie extérieure, en un éclair.
Peut-être.
Quelquefois que de ventre et le calme.
Oui, peut-être. Mais
il y a quand même aussi la voie de la connaissance. Parce que la saisie, c'est un des 12 liens qui servent à clé, mais il y a aussi l'ignorance-connaissance. Par la reconnaissance.
De l'ignorance ?
La reconnaissance de la nature de notre esprit. Du cas cesse également.
Oui, mais ça.
Quand.
Oui, mais ça, c'est l'actong.
Oui.
Et là, on est dans Chiné. Dans Chiné, c'est la reconnaissance de la saisie.
C'est les deux clés principales.
Oui.
Saisie d'un côté et l'ignorance.
Dans Chiné, on prend conscience, on fait l'expérience que c'est la saisie qui est cause de dukkha. Dans l'actong, on comprend qu'il n'y a rien à saisir et qu'il n'y a personne pour saisir. On analyse, si vous voulez, la nature de cette saisie ou de la non-saisie. Dans Chiné, on ne fait pas cette analyse-là. On constate que. Et ça, c'est. Il faut bien faire cette distinction. Parce que ce soir, on va voir. On a vu le mois dernier, on a porté notre attention sur la deuxième noble vérité. Hein, l'origine de dukkha, la saisie. Bon, avec ça, on fait l'expérience que si on ne saisit pas, eh bien, dukkha cesse. Dukkha n'apparaît pas. Ou quand dukkha est là, ça cesse. Donc ça, c'est la troisième noble vérité. La première, il n'y a pas besoin d'y revenir. Tout le monde rencontre dukkha. Bon. Mais donc aujourd'hui, on va voir la quatrième noble vérité, c'est-à-dire le chemin qui conduit à cela. Et ce chemin, il se base sur cette compréhension de la saisie. Et ce chemin qu'on appelle l'octuple sentier, vous avez trois aspects. Cet octuple sentier peut se résumer à trois aspects. La connaissance, la sagesse, la discipline mentale et l'éthique. En général, on commence par l'éthique, la discipline mentale et la sagesse. Je suis de moins en moins orthodoxe. J'aime bien commencer par l'inverse. La sagesse, pourquoi ? Parce que la sagesse, elle comporte deux aspects de l'octuple sentier. La pensée juste et la compréhension juste. Qu'est-ce qu'on appelle la compréhension juste dans la pratique de Shiné ? Ben, c'est ça. C'est la compréhension que c'est la saisie qui est cause de Dukkha. Quand on passe dans l'Aktong, la compréhension juste, c'est la compréhension de la vacuité. Mais ce n'est pas le sujet de Shiné. Shiné, dans la compréhension juste par rapport à Shiné, le calme mental, eh bien, c'est comprendre le fonctionnement de l'esprit. En quoi ce fonctionnement cause la souffrance et en quoi, si je modifie ce fonctionnement-là, eh bien, Dukkha n'apparaît pas. Pour moi, ça, c'est l'expérience centrale de Shiné. Parce que le calme mental, c'est non-apparition de Dukkha. Ça ne veut pas dire un état de calme dans lequel il ne se passe rien. Et il y a tellement, tellement de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas dans le calme mental parce qu'elles continuent d'avoir des pensées ou des sensations ou des perceptions. Alors elle s'invente un état soi-disant de calme. Alors elles sont là. Aseptisées, quoi. Complètement, mais aseptisées. Vous rencontrez plein de zombies bouddhistes dans les centres, quoi. Qui sont là comme ça, quoi. Est-ce que vous avez vu le Dalai Lama ? Est-ce que vous avez vu un Rinpoche qui est là comme ça, comme une espèce de poupée anesthésiée ? Non, il n'y a pas plus normal, ordinaire que les grands Rinpoche. Ça me fait toujours penser à cette histoire, je vous ai raconté ça qu'un jour, hein, dans le bus, alors qu'on avait 18 heures de bus, le chauffeur s'était trompé pour aller à Tsopema, etc., en Inde, et vraiment galère, on était tous crevés, on descendait de l'avion, et on était allés dans le bus en plus, et vraiment on en avait tous ras-le-bol. Et il y avait une femme. Comme ça, c'est une grande pratiquante. Je ne suis pas affectée par la fatigue. Non, tout va bien, je suis pratiquante. Mais c'est complètement farfelu, c'est complètement fabriqué, ça ne tient pas. Il y a un coup de vent et tout. Il n'y a aucune stabilité dans l'esprit. Et alors elle me dit, Amatsetri, vous êtes dans le Mahamudra ? Je lui avais répondu, non, je suis dans le bus et j'en ai marre. Parce que c'était tout à fait normal et ordinaire et ben d'en avoir marre au bout de 18 heures de bus, quoi. Il n'y a que des zombies du Dharma qui vous disent, non, je n'en ai pas marre. Ils ne sont pas normaux. C'est pas ordinaire. Ils se sont créés un état qui représente pour eux ce que doit être le calme mental. Mais non, jamais vous ne voyez Ringo Rinpoche dans un état totalement artificiel. Il n'y a pas plus présent, pas plus ordinaire, on va dire, dans sa façon de vivre ce qu'il a à vivre. Simplement, intérieurement, son esprit ne vit pas les choses telles qu'un être ordinaire les vit. Voilà, c'est ça, c'est ici que se situe la différence. Extérieurement, ça ne se voit pas. Ça peut se voir, si, parce qu'il y a quelque chose qui est constant chez les êtres, chez ces grands méditants, c'est la joie. Comme dit le texte, hein, je ne sais plus dans quelle strophe, mais le méditant voit les pensées comme un jeu continuel. Ce que dans l'hindouisme, ils appellent la lila. C'est-à-dire, c'est un... Pardon ?
Une danse.
Comme une danse, comme une émergence d'apparence, encore, qui vont, qui apparaissent, qui disparaissent, qui est d'autres, qui apparaissent, qui disparaissent. C'est une espèce de feu d'artifice, carnaval, comme vous voulez.
Il y a du boulot.
Mais parce que tout cela, ce mouvement-là, eh bien, n'a pas de la possibilité de nous faire souffrir. C'est autre chose qui nous fait souffrir, et ça, il faut absolument en faire l'expérience et en être sûr et certain, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension juste. dans l'octuple sentier par rapport à Chiné. Et cette compréhension, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Nous devons en avoir une compréhension, mais qui s'appuie sur l'expérience. À tel point que si quelqu'un demain vient vous démontrer que vous êtes dans l'erreur, rien ne peut vous ébranler parce que vous le savez, vous le voyez, vous l'expérimentez, vous le vivez. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième aspect de la sagesse dans l'octuple sentier, c'est la pensée juste. Alors, sur quoi se porte la pensée d'un pratiquant ? Sur deux aspects. Tout d'abord, la pensée de renoncement et la pensée de bodhicitta. Et la pensée de renoncement, eh bien, le renoncement, même si l'on n'aime pas ce terme-là, parce qu'on n'en comprend pas vraiment le sens, le renoncement se porte sur dukkha et sur l'origine de dukkha. Un pratiquant bouddhiste, mais il renonce à quoi ? À cela. Il renonce à dukkha. Et donc à ce fonctionnement qui occasionne dukkha pour lui-même et pour autrui. Le véritable renoncement, mais c'est ici que ça se porte. C'est complètement lié, le renoncement est complètement lié à l'expérience que nous faisons au niveau de notre esprit et de ce fonctionnement de l'esprit. Un Rinpoche, mais il continue d'avoir froid, d'avoir chaud, d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir telle ou telle sensation. Il continue de souffrir s'il vient de perdre un proche. Il continue d'être malade s'il est malade. Il continue de vieillir s'il doit vieillir, etc. Il n'y a rien de qui se modifie dans le déroulement et dans le déroulement de l'existence des différents agrégats qui constituent un être, qu'il soit Rinpoche ou un être ordinaire. Par contre, le renoncement, oui, ça c'est nécessaire. Parce que tant que le renoncement n'est pas fermement établi dans notre esprit, pourquoi méditer ? Donc, il faut en revenir à cette question. Est-ce que nous avons vraiment le renoncement à dukkha ? Et non seulement pour soi, mais pour nos proches. Parce que quand on expérimente l'origine de dukkha et qu'on voit que dukkha germe dans notre esprit, mais la souffrance de nos proches germe où ? Dans leur esprit. Parce que leur esprit fonctionne d'une façon qui engendre dukkha. Donc cette pensée de renoncement, eh bien elle est liée au deuxième aspect de la pensée juste. Elle est liée à la bodhicitta. Parce que c'est dans cette compréhension de ce fonctionnement mais qu'une véritable compassion s'élève dans l'esprit. Et là, c'est vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment une compassion, mais profonde et vaste. Et vaste, parce qu'on comprend l'origine de la souffrance. Ce n'est plus une compassion qui reste à l'état, on va dire, superficiel ou sentimental, mais c'est une compassion mais qui nous pousse à transformer notre esprit. Et à expérimenter cette transformation. Et tant que autrui ne fera pas cette transformation dans son esprit, même s'il souhaite de tout son être heureux, il souffrira. Parce que ce fonctionnement ordinaire de l'esprit engendre dukkha.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Montrer. C'est ce que font les Rinpoche. Être en non-dukkha et montrer que c'est possible. Et ça, il faut se rappeler que le Bouddha n'était pas un dieu, que le Bouddha n'était pas un prophète, que le Bouddha était un être humain, point. Tout aussi ordinaire que nous sommes ordinaires. Ce qu'il a réalisé, et ça il ne faut jamais oublier, ce qu'il a réalisé, nous pouvons le réaliser. Et il n'y a pas de différence entre le Bouddha et nous. Il n'y a pas de différence entre notre lama racine et nous. Le fonctionnement de notre esprit fonctionne de la même façon pour un Bouddha, pour notre lama racine ou pour nous-mêmes. Simplement, il y a un entraînement qui est fait sur certaines personnes pour que ce fonctionnement-là, il y a quelque chose dans ce fonctionnement qui disparaît. Et c'est pour ça qu'on parle d'extinction dans la libération. Il y a quelque chose qui disparaît et qui est présent. Et tant que c'est présent, ça engendre dukkha. Quand ça disparaît, alors il n'y a plus tout corps. Et c'est la seule différence. Et la compassion, et c'est pourquoi le don du dharma, par exemple, est supérieur à toutes les autres formes de dons. Mais le don du dharma ne peut pas se faire, je dirais, par une compréhension intellectuelle du dharma. Et c'est ça la richesse de la transmission que font les Rinpoché encore aujourd'hui, c'est qu'ils transmettent leur expérience. Ils nous montrent que c'est possible. Et ils ne nous le montrent pas parce qu'ils nous le disent, mais ils nous le montrent réellement parce qu'on assiste à comment ils réagissent par rapport aux différents événements, aux différentes situations qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne, qu'ils rencontrent comme nous, nous rencontrons. Mais comment leur esprit réagit par rapport à ces situations? Et c'est là où il y a la différence. Il faut beaucoup observer un Rinpoché quand vous êtes en présence d'un Rinpoché. Pas besoin de causer de tout et de rien avec lui. Observez-le, observez-le. Voyez comment il vit les choses, comment il vit les situations, comment il vit les rencontres avec un tel, etc. Observez. On apprend beaucoup, beaucoup de choses simplement par l'observation des maîtres. C'est pour ça qu'il y a dans l'hindouisme, on en parle beaucoup de ça, satsang, hein, la fréquentation des maîtres. Mais c'est pourquoi dans le bouddhisme, la sangha, c'est un des trois joyaux. C'est qu'on apprend de ceux qui pratiquent, qui sont un peu plus avancés, voire totalement arrivés. Mais la fréquentation de la sangha, en elle-même, est un enseignement parce qu'il nous montre que cette transformation de l'esprit est possible et que tout le monde peut faire cette transformation. Le problème est qu'on ne peut pas faire la transformation de l'esprit de quiconque. On ne peut pas transformer l'esprit de quiconque. On ne peut transformer que notre esprit. Vous pensez bien que si on pouvait transformer l'esprit d'autrui, mais il y a longtemps que nous serions libérés de dukkha. Les plus grands maîtres ne peuvent que nous montrer comment faire. Mais tant que nous ne faisons pas l'expérience que c'est notre esprit dans son fonctionnement ordinaire qui est à l'origine de dukkha, alors, est-ce que nous transformerons vraiment? Tant que nous continuerons de rendre responsable ce qui nous fait souffrir, les éléments extérieurs à nous-mêmes, pourquoi à ce moment-là transformer notre esprit? Comment expliquer Tengah Rinpoché? On en parlait tout à l'heure, mais comment expliquer Tengah Rinpoché qui a eu les deux jambes coupées? Des doigts coupés, un œil remplacé, tout ça à cause de sa maladie de diabète, plus une très grosse arthrose qui, dès l'âge de 30 ans, empêchait son activité, etc. Comment un tel bonhomme, un tel individu, disait « je n'ai jamais eu d'obstacle dans ma vie » Enfin, il faut se poser ces questions-là. Quand il y a un individu comme ça qui vous dit « je n'ai jamais eu d'obstacle dans ma vie », alors, on se dit, c'est un bonhomme qui ment, c'est un bonhomme, alors, exceptionnel, ou alors, c'est un bonhomme qui a peut-être appliqué le dharma et qui a vraiment médité. Toujours joyeux. Oui, et toujours joyeux. Et tous les Rinpoches sont toujours joyeux. Vous n'avez jamais vu le Dalai Lama triste. Et pourtant, il vit des tas de situations que nous vivons, nous aussi. Hein. Donc, ça veut bien dire que l'esprit, eh bien, appréhende et vit les situations d'une autre façon que notre esprit ordinaire les vit. Ça ne peut que nous donner envie de méditer, de transformer notre esprit, non? Mais voilà, il faut se rappeler que c'est possible, mais que c'est à nous de le faire et qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place, quoi. Bon, ça c'est la pensée juste, c'est-à-dire cette pensée de renoncement à ce mode ordinaire de l'esprit. On dit il faut renoncer à la souffrance, mais renoncer à la souffrance, peut-être que si je me mets dans une espèce de cocon et que je ne fréquente plus personne et que je ne vois plus que je n'ai plus de contact avec les situations de la vie ordinaire, peut-être que c'est est-ce que je vais vraiment être renoncer à ce moment-là à la souffrance. Si on croit ça, faisons l'expérience. Allez vous enfermer 15 jours, juste 15 jours dans une piole à lus, être coupé du monde, et voyez si C'est ça, renoncer à la souffrance. Le véritable renoncement à la souffrance, eh bien, c'est renoncer à ce fonctionnement de l'esprit, mais parce que je constate que ce fonctionnement ordinaire est cause de souffrance. Et là, la compassion va s'élever. Donc, le deuxième aspect de la pensée juste, eh bien, c'est la bodhicitta. C'est vraiment la bodhicitta. Et ces deux aspects, ça forme les deux piliers de notre pratique du dharma. On parle toujours de renoncement, mais tout le monde voit le renoncement comme quelque chose, comme il faut se sacrifier, il faut que je renonce à ma famille, il faut que je renonce à ma grosse voiture que je viens d'acheter, et très confortable et luxueuse, etc. Pourquoi devoir renoncer à ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir cette voiture luxueuse qui est un problème? Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à cette relation avec cette voiture qui crée un problème à mon esprit? Est-ce que c'est cet objet ou est-ce que c'est l'attachement que j'ai pour cet objet? Voilà, là on touche le véritable renoncement. Vous avez des personnes, vous savez, qui s'isolent complètement au fin fond dans une grotte de l'Himalaya. Il faut voir à Tsopema les grottes, ce qu'elles sont devenues. Mais c'est devenu des trois pièces. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a la grotte, puis on a construit un avant-grotte, et puis une deuxième avant-grotte. Alors maintenant, il y a trois pièces avec tout le confort dedans, etc. C'est tout juste si les méditants qui sont là depuis 10 ans n'ont pas le portable et tout ce qu'il faut. Et même celui qui n'a rien, il peut être très très attaché à ne serait-ce que sa cloche. Parce que sa cloche, c'est peut-être tel Rinpoche ou Dalai Lama qui lui a donné cette cloche. Allez lui piquer sa cloche, vous allez voir. Donc, véritable renoncement, ce n'est pas, ça ne se situe pas, il faut que je quitte absolument tout et que j'aille m'isoler dans une espèce de pauvreté matérielle, etc. On peut avoir pas grand-chose et être totalement attaché encore à ce pas grand-chose. Lisez des biographies, les 84 Mahasiddhas par exemple, ils n'ont pas changé un iota de leur façon de vivre. Ils ont gardé leur métier et ils ont tous réalisé l'état de Bouddha en ayant une famille et en ayant leur profession.
Leur souteneur.
Mais ce qui veut dire que c'était le fonctionnement de leur esprit qu'ils ont modifié. Et ça, c'est possible, mais dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Donc ces deux aspects de l'octuple sentier, la pensée juste et la compréhension juste, ça forme la sagesse. Bon, il y a 8 aspects hein, dans l'octuple sentier, donc il en reste 6. Donc après il y a la discipline mentale. La discipline mentale comprend l'effort juste. L'effort juste. Alors l'effort juste, c'est l'entraînement de l'esprit. Et cet entraînement de l'esprit, là encore, il se base sur l'expérience. Tant que nous ne faisons pas l'expérience, nous n'avons pas vraiment de persévérance et de diligence dans notre pratique. On appelle ça l'effort juste. Si ce mot-là ne convient pas, mettez persévérance ou diligence. Le mot persévérance en tibétain, c'est tsundru. Tsundru, littéralement, veut dire énergie enthousiaste. C'est-à-dire que dans notre pratique du dharma, dans la régularité de notre pratique, il doit y avoir de l'enthousiasme. Si c'est la contrainte, si c'est une espèce d'engagement que j'ai pris et que je dois absolument m'imposer parce que bon, je tiens mes engagements, c'est pas vraiment l'effort juste. Parce que ce n'est pas basé sur la véritable compréhension, sur l'expérience. C'est pour ça que j'insiste tant en vous demandant, mais est-ce que vous faites l'expérience que c'est bien la saisie qui est à l'origine de dukkha? Parce qu'alors, une fois qu'on est sûr de ça, on a plus qu'une envie, mais c'est d'entraîner notre esprit pour que cette saisie se relâche à chaque fois qu'elle se manifeste. Et c'est ça l'effort juste. C'est utiliser chaque instant pour être vigilant et conscient eh bien, de la saisie qui se manifeste. Et bien sûr qu'on va s'entraîner une demi-heure par jour sur son coussin, d'accord, mais cet effort juste, mais c'est à chaque instant de notre vie quotidienne. Quand on marche dans la rue, quand on conduit sa voiture, quand on fait ses courses, quand on fait sa cuisine, quand on fait son ménage ou je ne sais quoi, il y a toujours une possibilité d'observer son esprit. par rapport à ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent, par rapport à la perception de l'autre, par rapport à la sensation que j'ai. Est-ce qu'il y a une saisie dans mon esprit ou pas? Ou est-ce que s'il y a saisie, est-ce que je peux lâcher, ouvrir, détendre? Et ça, c'est l'effort juste. Donc ça, c'est à chaque instant que l'on doit observer en fait son esprit. Hier soir, je faisais rire tout quand j'étais à Nancy, parce que je suis arrivé à Nancy à 18h à la gare et je suis allé à pied de la gare jusqu'au tuning. Il faisait nuit, il ne pleuvait pas, mais alors il y avait une espèce de crachin. Mais vous savez, vraiment le crachin bien breton, par exemple. Voilà, breton. Et qui vous pénètre tout de suite. Les lunettes sont tout de suite embuées. Enfin, voilà, ça colle bien, quoi. Et il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là qui sortaient de leur bureau et qui n'avaient pas pris de parapluie, etc. Il fallait voir les... J'allais dire, il fallait voir les tronches, quoi. Il fallait voir la tête des personnes qu'on croisait, quoi. Bombe atomique, ça aurait été un peu pire, mais pas sûr. C'est-à-dire que, vraiment, intérieurement, leur esprit vivait le fait qu'il faisait nuit, qu'il ne faisait pas chaud, et qu'il y avait ce crachin. Il fallait voir la grosse saisie par rapport à tout ça, quoi. Mais ça se voyait sur les visages. C'était crispé, tendu, stressé, ça marchait, tout comme ça. Tout. Mais vraiment, et il n'y a qu'à voir, tout à l'heure j'étais dans le métro, il n'y a qu'à voir les têtes qu'ont les gens dans le métro. Hein. Ça saisit à chaque instant. Hein. Alors vous allez me dire, c'est les situations qui font que, eh bien, c'est stressant, etc. Si on accuse toujours, on donne la responsabilité toujours aux situations et aux autres, eh bien, on n'a pas cette compréhension que Dukkha, c'est notre esprit. Ou alors, effectivement, comme je leur disais, ben alors, si vraiment le crachin est la nuit un 5 novembre, ce qui est tout à fait normal sous nos latitudes, hein, si ça c'est trop lourd, alors il faut déménager, quoi. Aller plus dans le sud. Mais que ça nous plaise ou non, de toute façon, ça... Et alors, on est juste en novembre, hein, on n'est pas encore en février. Donc on va avoir le temps de bien observer la saisie de tout ça. Hein.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la saisie? C'est-à-dire que là, dans l'exemple que tu donnes, j'ai l'impression qu'il y a un aspect de prendre les choses vraiment au sérieux,
ouais.
De solidification.
C'est ça, c'est vraiment ça.
Et puis d'identification et appropriation. Quoi. Il y a vraiment
un manque total d'humour.
Pas d'humour.
C'est voir le côté négatif. C'est
pas voir le côté négatif. C'est...
Il croit vraiment, quoi. Croire que c'est vrai. C'est...
Mais c'est... Oui, c'est solidifier. Moi, c'est le mot qui je trouve qui comment
on donne de l'importance aux choses, oui. On surestime, oui.
Oui. Mais il pourrait très bien dire que la pluie c'est bon pour la peau et puis que c'est positif.
Voilà,
et
là, oui.
c'est bien prendre le côté négatif de la chose.
Mais non, c'est parce que des fois c'est positif.
Oui,
peut y avoir une saisie là.
La saisie peut-être sur quelque chose d'agréable, oui. De positif. La saisie, ça donne.
Oui,
il y aura de l'attachement.
Dans le métro, ils ont peur de le perdre. Enfin, c'est facile de les critiquer parce qu'ils ne savent pas aussi.
Oui, non, c'est pas une critique.
On est en train de. Ces gens qui sont enfermés dans le métro.
Non, mais. Non, attendez. Je ne suis pas en train de critiquer.
Non, mais ils ne savent pas, peut-être.
Mais là, on entre dans l'analyse. Mais on est pareil. Je veux dire, on est pareil. On a tous cette tête-là dès qu'on saisit quelque chose qui ne nous convient pas. Je veux dire, c'est ce que je voyais hier soir dans la rue, mais c'était le miroir de ce que j'étais aussi. Parce que j'avais cette même tête-là si je saisissais, quoi. À un moment donné, il faut prendre conscience de ce fonctionnement-là de l'esprit. Et alors se dire, mais si je ne saisis pas, où est le problème qu'il fasse nuit et qu'il y a la pluie, et qu'il y ait la pluie? Où est le problème qu'il y ait vachement de monde dans le métro quand là je le prends? Et qu'il fait chaud, et que... la promiscuité et tout cela. Est-ce que en soi c'est véritablement dukkha? C'est à ce moment-là que on peut lâcher, quoi, et comprendre que dukkha apparaît simplement parce que je suis en train de crisper les choses, de solidifier les choses, et que tant qu'on les solidifie, alors effectivement dukkha apparaît. Et là il n'y a pas de jugement, et là il y a une véritable compassion qui peut s'élever dans notre esprit, parce qu'on comprend que les gens souffrent. mais ils ne souffrent pas de la situation, ils souffrent de comment ils vivent la situation. C'est eux qui créent leur souffrance, comme nous, nous créons notre souffrance.
Est-ce que je peux, s'il vous plaît, parce que j'ai pas beaucoup de pratique, mais tout ce que vous dites, je le comprends, mais moi, c'est dans, parfois, de moins en moins souvent d'ailleurs, mais c'est dans la journée que j'ai des pensées qui m'apportent de cas. Mais pendant la demi-heure de méditation, là, moi, j'ai pas de pensées qui me font souffrir. C'est pas normal.
Non, c'est ça.
Hein? Non, mais c'est ça.
Ça prouve que la méditation permet de ne pas s'éloigner.
Alors,
je dors pas parce que j'ai déjà expérimenté de roupiller. Mm-hmm. C'était quand je faisais des essais depuis un an. Mm-hmm. Et ça n'est plus. Donc.
Alors, ça veut peut-être dire, après il faut peut-être plus observer en détail, mais ça veut peut-être dire que lorsque vous méditez, vous établissez une véritable vigilance dans l'esprit, qui fait que...
J'ai l'impression, oui,
voilà, et que
je chope, s'il y a des pensées, je les chope tout de suite.
Et enfin, vous lâchez.
Oui, voilà.
Vous en êtes consciente.
Je chope parce que je me suis dit ce mot quand j'ai eu compris. C'est-à-dire...
Et reconnaître,
oui.
Être conscient de leur présence.
Écarté, oui.
Et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de saisie qui s'il y en a une, en tout cas, elle se libère.
Mais j'ai même l'impression que j'en ai plus des pensées.
Il se peut qu'à ce moment-là, l'esprit soit plutôt calme, qu'il n'y a pas beaucoup de pensées. Et dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il y a moins de vigilance parce qu'on est plus pris par les stimuli de l'activité.
Oui. Oui, dans la vie de tous les jours, bien sûr, il y a des choses extérieures. Mm-hmm. Enfin, Oui.
Et qu'à ce moment-là, on saisit davantage.
Mais pendant la période de méditation...
Alors, après, appliquez ça aussi par rapport aux perceptions. Tout ce que vous percevez. Si l'endroit où vous méditez et il y a par exemple un bruit ou quelque chose qui se passe.
Même les douleurs,
les sensations.
Et tout, si on s'accroche pas, ça dure pas, quoi. Ça fait pas souffrir.
Très bien.
Ça peut peut-être faire souffrir, mais une toute petite.
Oui, ça s'atténue.
Oui.
Oui, ben ça c'est très bien. Mais ça c'est très bien.
Il me semble que ce que tu dis là, finalement, c'est dukkha la clé. Parce que quand on essaye de méditer en essayant de voir la saisie apparaître, on ne la voit pas apparaître.
Alors, quand on essaie de voir la saisie apparaître...
On pourrait se dire, je vais essayer de voir la saisie apparaître et l'empêcher.
Ouais.
Mais en réalité, c'est toujours après. Quand on était distrait... C'est après qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire que le moment de la saisie, c'est un moment d'inconscience, en fait. Et donc, c'est dukkha qui nous fait dire, nous avons saisi, qui nous fait dire, lâcher prise.
C'est l'effet.
C'est-à-dire que, finalement, ce dont on peut faire l'expérience, c'est le lâcher prise.
Oui, ben oui, c'est...
Qui nous fait disparaître dukkha et qui nous fait dire, j'avais saisi.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais finalement, voir la saisie elle-même, on n'y arrive pas.
Non, on sait qu'on est dans la saisie parce qu'il y a un effet,
exactement.
Parce qu'il y a dukkha qui apparaît.
Exactement. Et donc, c'est dukkha, c'est sur dukkha.
C'est ça.
Et donc, ce que tu dis, finalement, il faut finir par en être certain.
Mais oui.
Non, pour pouvoir dire dukkha est là,
donc
je lâche prise.
Oui, oui. Oui, tout à fait.
Parce que finalement, on comprend beaucoup mieux le lâcher prise que la saisie elle-même.
Enfin, c'est dukkha est la conséquence de la saisie, ça c'est clair.
Bon, finalement, ça veut dire qu'on s'en aperçoit une fois qu'on souffre.
Exactement.
Oui,
c'est dukkha qui
est. On n'a pas le temps de la. C'est le sens qu'on la voit.
Si on fait les choses comme ça, parce que tu cherches à voir la saisie, tu ne vas pas la voir. Non, mais dukkha, tu vas le voir.
On peut s'entraîner à voir la saisie.
Et donc dukkha.
On peut s'entraîner à voir la saisie.
Oui. Oui,
ça peut arriver dans un éclair, dans la vie ordinaire.
Mais à ce moment-là, si on voit la saisir, on ne saisit pas. Si on la voit venir, ça veut dire que ce n'est pas qu'on lâche à ce moment-là, c'est qu'on ne saisit pas.
Mais non, quand on voit la saisie, ça n'est pas synonyme de la lâcher. Hein.
Mais non, il n'y a rien à lâcher dans ce cas-là.
Non, mais là, vous êtes complètement dans l'acton.
Non, pas oui, mais c'est déjà la fission.
Oui, d'accord. Parce qu'il y a déjà la...
Oui, oui. Non, non, mais c'est... Non, non, mais il faut déjà être bien sûr que... Voilà, on peut voir les choses comme ça. S'il y a dukkha, c'est qu'il y a saisie, quoi. Mais quand même, dans Chiné, quand on fait apparaître une pensée et que on se dit volontairement, je la saisis, je la solidifie, etc., au bout de 2-3 minutes, on constate l'état dans lequel se trouve notre esprit. Quelle est l'expérience, quel est le résultat de la saisie, quoi. Et là, on fait bien le lien entre les deux, quoi. Bon, eh ben, l'effort juste, en fait, ça consiste à vraiment observer et à avoir cette vigilance. Et Michel, vous vouliez dire ?
Non, ben, c'était ce point que quelquefois, dans la vie extérieure, il y a un éclair de conscience où on voit la saisie apparaître. Et peut-être qu'on va être pris ou qu'on ne sera pas pris, mais il y a, c'est pas après, là, c'est avant.
Sur le moment, oui.
Ça arrive. Ça.
Mais plus on méditera, plus on aura entraîné notre esprit, plus on verra le moment de la saisie, au moment où elle se manifeste. Oui.
Bon, j'ai une question plus générale. Quand j'étais plus jeune, je me disais, je cherchais beaucoup cette attention, la sincérité. Et là, on n'en parle jamais tellement. On dit après, on aboutit, ça y est, on a la compassion. Mais je me demande des fois, si c'est parce que je refais maintenant chimie un peu, comme vous l'indiquez, ça fait rien, même si, bon, après les années, c'est pas grave, et on a toujours besoin de reprendre. Et quelquefois, je me demande si je construis pas une espèce de point d'observation. Parce que ce qui nous frappe quand on est en face des Rinpoche, justement, c'est la sincérité. Il n'y a aucun endroit où ils sont réfugiés ou planqués. C'est comme vous dites, c'est...
On ne peut pas les prendre en défaut.
C'est entièrement vivant. Alors moi, des fois, je me dis, mais par exemple, j'ai un espèce de poids de stabilité maintenant dans l'abdomen, quand on a fait la séance tout à l'heure. Le mental est moins actif, tout ça. Il y a quelque chose de plus spacieux. Et voilà, je reviens toujours à ce point, et j'ai plus, parce que Rinpoche nous a mis beaucoup en garde de ne pas saisir des états de concentration. Alors ça, je ne fais plus du tout cette démarche. J'aime bien, moi, des fois, avoir une sensation d'éveil, de concentration. Alors je ne fais plus, bon. Mais je me demande, parce que ce qui compte, en effet, c'est après de voir le résultat dans notre vie, comment on est, Et je me demande si c'est pas encore une espèce d'artifice que j'ai encore à nouveau constitué là, une espèce de point de stabilité. Parce que quand on a une expérience d'éveil, on est transformé pour un moment, justement, dans la vie extérieure, avec les autres, il y a cette joie, tout ça. Alors que là, c'est différent dans l'expérience.
Oui, parce que Chiné, ça ne déracine pas la saisie. C'est l'acton qui déracine la saisie. Et quand la saisie est vraiment déracinée, alors il y a toutes les qualités qui émergent. Alors il y a pas seulement la joie et la compassion, mais il y a effectivement la sincérité, c'est-à-dire l'impression que on répond de façon juste à ce qui doit être dans l'instant présent. Et c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on peut ressentir chez un Rinpoche. Mais ça, c'est les qualités, elles apparaissent vraiment dans l'acton, je dirais, davantage que dans Chiné. Dans Chiné, c'est l'esprit est calme, quel que soit le mouvement. Mais on ne sent pas forcément dans Chiné, on peut le ressentir, mais pas forcément la dynamique de l'esprit dans Chiné. C'est-à-dire cette dynamique qu'on appelle le Sambhogakaya, cette expression, cette manifestation de toutes les qualités. Parce que la saisie, elle n'est pas entièrement déracinée dans Chiné, elle est déracinée dans l'Aktong. Chiné, c'est comprendre que la saisie est le problème de tout. Et l'Aktong permet de déraciner la saisie parce qu'on en comprend la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à saisir. Et qu'il n'y a personne pour saisir. Donc c'est le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Ça n'entre pas en ligne de compte dans Chiné. Mais pour pouvoir faire ce travail de l'actong sur la saisie, il faut être sûr que c'est la saisie qui est le problème de tout. Et ça, c'est l'objectif de Shiné. Enfin, moi, je vois Shiné de cette façon-là, si vous voulez. Alors, l'effort juste, c'est-à-dire cet effort constant, en fait, eh bien, il est associé à l'autre élément de l'octuple sentier qui fait partie de la discipline mentale, l'attention juste. L'attention, être attentif. Souvenez-vous de la phrase qu'on avait évoquée le mois dernier. Hein? L'attention sans distraction est le corps de la méditation. L'attention sans distraction. C'est un état d'attention. Être attentif à ce qui se passe. Et tout le monde conduit une voiture ici? Bon, eh ben, c'est cet état d'attention qu'on a quand on conduit une voiture. C'est pas être crispé et tendu sur comment est mon esprit. On ne peut pas être comme ça un quart d'heure. Hein. Mais c'est être conscient de ce qui se passe, mais constamment, le plus souvent possible. Et le plus souvent possible, si nous ne sommes conscients que 10 fois dans la journée, bon, ben, nous sommes conscients 10 fois dans la journée. Mais si on s'entraîne à se dire, mais comment est mon esprit là? Mais en allant faire nos courses, en marchant, en écoutant quelqu'un, en discutant avec quelqu'un, on peut très bien se dire en même temps, tout en étant présent à la situation, mais qu'est-ce que ça fait naître comme réaction dans mon esprit? L'autre me dit ça, l'autre me répond d'une telle façon, avec un ton particulier, où je sens que l'autre n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de lui dire. Qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit? Être attentif à ça. Ça, c'est l'attention, juste. Voilà. Et en plus de l'attention juste, il y a la concentration juste. Mais vous savez, la concentration juste, concentration, c'est un mot que je n'aime pas tellement. Parce que ça donne cette idée, cette image de quelque chose de très étroit. La concentration en tibétain, samten, ça veut dire esprit stable. C'est-à-dire, en fait, s'entraîner par l'effort juste, par l'attention constante, à faire en sorte...
Mais je pense qu'en sanskrit, c'est dhyana, en fait.
Oui, c'est la méditation c'est dhyana. Oui, c'est ça.
C'est la méditation oui. juste.
Mais on traduit ça par concentration. Oui, oui. Et ça veut dire, en fait, la stabilité. Rendre stable cet état d'attention. Donc, observons. Observons notre esprit. Mais tout le temps. Le plus souvent possible. Alors, le plus souvent possible, ça veut dire, le soir, il faut se dire, mais est-ce que j'ai été attentif à ce qui se passait dans mon esprit aujourd'hui, quoi, au cours de ma journée? Oui, bon, c'est très bien. Non, qu'est-ce qui a manqué? Peut-être j'ai manqué de rappel, parce qu'il faut se familiariser avec ce travail intérieur. Et ce n'est pas naturel pour l'esprit, quoi. Donc il faut créer des rappels, se dire, eh bien, soyons attentifs. Alors, après, les rappels, chacun... vous collez ça sur le volant de votre voiture, en fond d'écran, si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, etc. Mais mettez des post-it, quoi. Attention. Et puis, et que de temps en temps, eh bien, on ramène son esprit sur cette observation intérieure. Shiné, la méditation, l'entraînement de l'esprit, c'est quelque chose qui se passe... Mais dans tout notre quotidien, quoi. C'est pas simplement assis sur notre coussin. Assis sur notre coussin, c'est créer des circonstances, créer un environnement favorable pour faire ce travail-là. Mais il faut pas se dire que parce que j'ai fait ma demi-heure de méditation, ça y est, je suis quitte pour la journée, quoi. Là, on n'avance pas. Si on ne sait pas comment appliquer cette méditation dans notre vie quotidienne. Ça, c'est juste être attentif à ce qui se passe dans notre esprit. Rinpoche utilise souvent ce terme. Il dit être attentif à comment on réagit par rapport à telle situation, par rapport à lorsque mon esprit entre en contact avec un objet, avec une personne, avec une situation. Le Bouddha disait ce qui sait. Méditer veut dire ce qui sait. Est-ce que je sais ce qui se passe dans mon esprit. Et là, il n'y a aucune tension là-dedans. C'est être attentif au fonctionnement de notre esprit. Donc ça, ça forme hein, ces trois éléments, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste, eh bien, ça forme la discipline mentale. Et on voit que discipline mentale, eh bien, se discipliner à coups de cravache, de contraintes, etc. Hein? C'est appliqué encore et encore dans notre vie quotidienne. Et de là, eh bien, le troisième élément de l'octuple sentier, c'est l'éthique. Alors, l'éthique, parole juste, action juste et moyen d'existence juste. Et là, on a l'octuple sentier. Parole juste, comme l'action juste et les moyens d'existence juste, l'éthique, en fait, bouddhiste, elle se base sur dukkha. À partir du moment où je comprends que dukkha, c'est vraiment un problème pour moi, je peux comprendre que c'en est un pour les autres. Donc, comment faire en sorte que dans mon éthique, dans ma façon d'être, mon attitude par le corps, la parole et la pensée, eh bien, je sois moins cause de souffrance pour autrui, pour ne plus être cause de souffrance pour autrui, jusqu'à aider à se libérer autrui de dukkha. La parole juste, elle va se baser là-dessus. Et dans la parole juste, eh bien, vous avez évité de mentir. C'est pas que en soi le mensonge c'est quelque chose de négatif, mais à chaque fois qu'on ment, on crée de la souffrance. Et souvenez-vous que dans l'acte lui-même, il y a toujours la motivation avec laquelle on va accomplir cet acte.
La pensée qui précède.
Oui. Pourquoi est-ce que j'agis de cette façon-là? Pourquoi est-ce que, je vais éviter de mentir? Et est-ce que quelquefois, il ne vaut pas mieux mentir? Et à ce moment-là, est-ce que c'est une parole juste? Oui, parce que la motivation ne consistait pas à tromper l'autre ou à faire souffrir l'autre. Donc, on voit bien que l'éthique, elle ne se base pas sur des notions de mal et de bien qu'on détermine de façon absolue, mais qu'elle se détermine toujours par rapport à la motivation avec laquelle on va agir. Et c'est pour ça qu'on a reçu encore à l'UBF un courrier du ministère de l'Intérieur. Hein? Ben oui, parce qu'on nous sollicite sans arrêt, comme les autres religions sont sollicitées, par rapport au positionnement que le bouddhisme doit avoir sur, dernièrement c'était le mariage pour tous, mais les histoires, les questions de procréation, dans un couple homo, d'euthanasie, d'avortement et tout ça, le ministère de l'Intérieur ne comprend pas la position bouddhiste parce que nous n'avons pas de position tranchée comme les autres religions. Toutes les autres religions sont capables de dire ça c'est oui, ça c'est non. Voilà. Nous, c'est ça dépend. Voilà. Selon notre motivation. Et ce n'est pas parce qu'on va prendre une décision dans un cas, eh bien, qu'on peut déterminer que cette décision, eh bien, on va l'appliquer dans tous les cas. Parce que chaque cas est personnel et que chaque cas doit être considéré dans son aspect personnel. Donc la parole juste, hein, ça consiste à ne pas mentir, ensuite à ne pas calomnier, ça consiste aussi à éviter les propos blessants. Dans les propos blessants, c'est les propos blessants eux-mêmes, mais c'est plus large, c'est aussi entretenir des conversations négatives vis-à-vis d'autrui, même si la personne n'est pas présente, quoi. Et puis il y a ce qu'on appelle les propos futiles, c'est-à-dire en fait tout ce qui nous semble totalement anodin, mais qui peut faire naître un facteur perturbateur dans l'esprit de l'autre, et sous l'emprise duquel, eh bien l'autre va agir de façon négative. Donc en fait notre parole à ce moment-là, elle est responsable de l'acte que l'autre va accomplir sous l'emprise de par exemple la jalousie. Donc, la parole juste, elle comporte quatre éléments. La parole peut faire beaucoup souffrir. Et ça, la parole est très importante parce qu'elle est liée aussi directement à notre esprit. Observer l'esprit quand nous sommes, par exemple, dans tel type de conversation. Parler négativement d'autrui pendant une demi-heure et voyez comment est votre esprit après. Faites l'expérience que vous sortez de méditation, l'esprit très calme, et que vous commencez à parler d'un sujet sur lequel vous pouvez être en total désaccord, ça fait naître une certaine révolte intérieure, etc. Voyez le résultat du calme de la méditation simplement par une demi-heure de ce genre de discussion.
Même le bavardage, les paroles futiles, superficielles, même pas négatives, le seul fait que ça soit superficiel et... En fait, c'est la confusion.
Ça perturbe.
Il y a un dukkha qui apparaît dans notre esprit, éventuellement chez les autres.
Alors, parce que la parole est liée complètement à notre esprit, c'est-à-dire au souffle. Et c'est pourquoi dans le Vajrayana, quand on n'a rien à dire, si on veut dire quelque chose, on récite des mantras. Parce que c'est lié à l'esprit, c'est lié au souffle. Et c'est pourquoi dans le Vajrayana, il y a des pratiques de silence et il y a des pratiques de rétention de souffle. Tout ça, c'est lié en fait à la parole. Et c'est pourquoi à Luz, par exemple, le week-end à 18h, eh bien, tout le monde fait silence jusqu'au petit déjeuner. Vous avez des personnes qui crisent, quoi. Parce que nous sommes dans une société où il ne faut pas qu'il y ait de silence. Et il n'y a pas de silence. Regardez notre environnement. Est-ce que vous avez beaucoup de plages de silence? Si vous ne créez pas une plage de silence, tranquillement chez vous, quoi. Dès que vous êtes dehors, est-ce qu'il y a du silence? Dans la moindre boutique, vous avez radio, je sais pas quoi, en sourdine quand ça ne vous casse pas les oreilles, etc. Il y a une haine du silence dans notre société.
Il me semble qu'il y a aussi un autre aspect de bavardage, qui est le bavardage mental.
Mental, ouais.
La pensée discursive. Mmh, mmh, mmh. Et justement, dans les cas où c'est interdit, si on regarde cette pensée discursive quand elle est en marche, mais ça parle, c'est tout prêt à sortir. En réalité, c'est de la parole. Il y a esprit et parole.
Très très liés. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Et comment tu fais pour faire taire?
Fumer.
Pas si facile que ça.
Ah, mais ce n'est pas facile. Oui, non, ce n'est pas facile. Bien sûr.
C'est pas facile, c'est ça.
Oui, mais voilà, quelquefois, quand il y a une grosse saisie qui est sur un bavardage intérieur, eh bien, on peut bavarder comme ça une bonne partie de la nuit. Hein. C'est-à-dire que ça nous empêche de dormir. Et à ce moment-là, oui,
il faut donner une expérience, c'est en faisant filmer longtemps. C'est bien de faire une heure par jour, une demi-heure, 10 minutes. Mais si on peut, ça peut être vraiment très très bien de le dire un jour, je vais faire vraiment un mois et demi, 2 mois, essayer vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ben, c'est le but des retraites.
Voilà, éventuellement on peut faire une retraite chez soi, si on, ouais, si on a les conditions. Et là, il peut y avoir un moment où, oups, ça fait ça. Ça s'arrête.
Mais c'est ce que nous expliquait à la dernière fête du Bouddha à Strasbourg, la sœur Chang Kong. Vous savez, celle qui suit Thich Nhat Hanh depuis des années et des années, depuis qu'ils sont arrivés du Vietnam. Elle nous disait, elle partait pas vraiment sur le bavardage mental, mais sur une émotion très très forte dans l'esprit. Elle disait la seule solution pour se libérer de cette émotion, c'est de faire chiner. Mais alors vraiment cette fois avec un support. La respiration, pour elle, c'était vraiment la respiration. Elle prenait cet exemple, vous savez, je vous l'ai raconté, d'une femme qui, après 30 ans de mariage, avait su que son mari avait une aventure. Bon. Donc une colère monstrueuse dans l'esprit de cette femme, quoi. Elle a mis 4 heures hein, pour apaiser son esprit. Alors, chez Thich Nhat Hanh, en fait, ils se mettent à marcher. Ils font la méditation marcher. Et en respirant, en concentrant l'esprit sur la respiration. Bon. Et au bout d'un quart d'heure, elle faisait cet exercice, comme ça, tout en colère, hein, elle faisait cet exercice, puis au bout d'un quart d'heure, elle disait, bon, comment est mon esprit? Toujours la colère, donc elle continuait. Elle a mis 4 heures, il lui a fallu 4 heures de méditation marchée pour qu'enfin son esprit s'apaise par rapport à comment il vivait cette situation-là. Donc ça, c'est un très bon exercice. C'est par rapport aussi au bavardage mental, quand ça nous empêche de dormir, à ce moment-là, il faut se dire, il faut que je médite. Dans la pratique de Lojong, hein, il est dit, lorsque rien ne va, c'est le meilleur moment pour s'asseoir sur son coussin. Et c'est vrai. Mais à ce moment-là, il faut prendre un support. Parce que ça dévie notre esprit, si vous voulez, de la saisie qu'il opère sur telle pensée qui entretient ce bavardage mental, et on oriente notre esprit sur un support. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et alors là, il faut le faire, mais alors vraiment concentré, quoi.
Une fois qu'on a fini ça, est-ce qu'à ce moment-là, quand on sort de cette méditation, est-ce que on a vraiment bien digéré, ou bien on se remet à faire ce qu'on faisait auparavant?
Si on se remet à faire ce qu'on faisait auparavant, il faut reprendre la méditation.
Pas si longtemps.
Eh oui. Ouais. Ouais.
C'est ça. Ouais. Il faut recommencer.
Oui. Ensuite, l'action juste. L'action juste, eh bien, ça va consister à éviter nos actes qui sont cause de souffrance pour autrui. Donc, on va éviter de tuer, on va éviter de voler et éviter d'avoir d'inconduite sexuelle. Voilà, ça, c'est les trois points principaux de l'action juste. Là encore, ce n'est pas une histoire de morale, c'est une histoire que personne n'a envie d'être tué. Personne n'a envie d'être volé, et que bien souvent notre conduite sexuelle est bien peut-être cause de souffrance. Donc c'est toujours, l'éthique est toujours liée en fait à cette notion de souffrance. Qu'est-ce que je dois modifier dans mon comportement en parole, mais aussi dans mon attitude physique, eh bien pour que ce comportement soit moins cause de souffrance pour autrui et pour soi. Parce que quand on vit l'octuple sentier, on se rend compte que notre esprit est beaucoup plus détendu, beaucoup plus paisible par le fait de vivre l'octuple sentier. Donc c'est bénéfique pour soi et c'est bénéfique pour autrui. Et les moyens d'existence justes, alors ça c'est la grosse question, hein, parce que en tant que bouddhiste, on doit se poser la question à un moment donné, si les moyens d'existence que l'on a décidé de mettre en œuvre pour vivre, est-ce qu'ils sont compatibles avec l'éthique bouddhiste? Il y a des moyens d'existence là qui ne le sont pas, forcément. Voilà. Alors après, chacun peut avoir une réflexion et une prise de conscience là-dessus. Hein? Il y avait un cas d'un l'ancien Kalou Rinpoche, avait connu quelqu'un qui était allé le voir et qui travaillait dans un abattoir. C'est pas franchement un moyen d'existence juste pour un bouddhiste. Bon. Kalou Rinpoche lui a dit, si vous pouvez changer de métier. Il ne pouvait pas changer de métier. Bon, il a fait avec. Hein? Mais après ça, c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire. Mais c'est une réflexion qu'on doit avoir. Alors après, vous allez me citer des tas de cas personnels. Mais le bouddhisme ne répondra pas, le dharma ne répondra pas par oui ou par non, mais c'est à chacun de voir ce qu'il peut faire pour que, eh bien, en gros, sa façon de vivre par ces différents aspects de l'octuple sentier, que sa façon de vivre, eh bien, soit plus en conformité avec la bodhicitta et avec le développement de son entraînement intérieur, de sa pratique de la méditation. Est-ce que c'est favorable pour ma pratique?
Finalement, tout, c'est pour éviter de faire souffrir les autres.
Ouais.
Tout.
Absolument, absolument. Donc, c'est bien pour cela que c'est si important de comprendre quelle est la racine de la souffrance.
Oui, mais alors après, je vais te dire une nouvelle, mais il y a une nouvelle souffrance, c'est de voir des gens à côté de soi qui vivent complètement contrairement à...
C'est ce qu'on appelle la compassion.
Ça, c'est pas marrant.
Oui, c'est ça la compassion. Oui. Oui. Et là, quand on comprend vraiment ça, alors cette compassion, elle est puissante. Elle est vraiment profonde. Et ça ne se résume pas, cette compassion ne se résume pas à une simple vue de l'esprit, à une simple « Ah oui, les pauvres !» Mais elle met en action, en activité, une attitude pour qu'il y ait moins de souffrance. Et c'est pourquoi le Dalai Lama dit toujours, si vous voulez qu'il y ait la paix dans le monde, bien sûr qu'on peut faire le souhait qu'il y ait la paix dans le monde, mais la paix dans le monde, ça commence par faire la paix en soi-même. Parce que notre attitude, elle va découler de notre attitude intérieure. Notre comportement va être le reflet de notre attitude intérieure. Faire la paix dans le monde, mais où commence le monde ? C'est dans notre famille, si on a une famille. C'est avec notre conjoint, si on a un conjoint. C'est facile de faire des souhaits pour la paix dans le monde à 10 000 kilomètres. C'est beaucoup plus difficile de commencer à faire la paix au sein de notre famille. Ça, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a encore des questions? Mais quand on comprend bien que tout l'octuple sentier repose, comme vous dites, sur ne pas faire souffrir autrui, mais on n'a qu'une envie, c'est de l'appliquer. On n'a qu'une envie, c'est de vraiment le vivre et de le mettre en pratique. Mais ça, c'est déjà le Mahayana, quoi. C'est déjà cette attitude du grand véhicule. Être un bodhisattva, ça commence par ça, quoi. Et ça, c'est à notre portée. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, hein. Mais c'est vraiment à notre portée. Ça commence, notre chemin commence par ça, quoi.
C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus facile d'éviter de faire souffrir les autres que de s'empêcher de souffrir soi-même, que d'avoir notre saisie. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de m'occuper des autres et de ne pas les faire souffrir. Et j'ai plus de mal, moi, à pas saisir et à ne pas souffrir.
Plus vous comprendrez ce qui vous fait souffrir, vous, plus cela modifiera votre façon d'aider les autres. Et plus vous comprendrez que votre façon d'aider les autres, jusqu'à présent, il y avait une très bonne motivation, mais il n'y avait pas forcément quelque chose de très juste dans votre façon d'agir pour aider les autres.
Oui,
pareil, Alice.
Ah oui. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faut avoir aussi de la bienveillance pour soi-même ?
Ah, ça, c'est sûr. Mais ça, on n'arrête pas de le dire dans le Dharma. Oui. Bien sûr.
Tous les êtres.
Et tous les êtres. Et Rinpoche, il le redit souvent. Tous les êtres, on fait partie de tous les êtres. Ouais. Prendre soin de soi, quoi. Tous les bodhisattvas, et nous sommes tous des bodhisattvas, tous les bodhisattvas doivent prendre soin d'eux-mêmes, doivent savoir les limites où ils peuvent, jusqu'où ils peuvent aller, et savoir que, eh bien, là, ils ont besoin de se reposer, de recharger les batteries, pour ensuite reprendre leur activité. Ça fait partie de la sagesse.
J'ai remarqué, c'est bienfaisant pour les autres à ce moment-là.
Comment ?
C'est bienfaisant pour les autres quand on trouve cette façon d'être.
Oui. Un bodhisattva doit pouvoir dire non. Moi, ça me fait toujours penser au Père Gilbert, quoi. Hein? Père Gilbert qui, 6 jours sur 7, dit oui à tout. Mais alors, le 7e,
le Père Gilbert.
Père Gilbert, vous savez, ce prêtre motard.
Guy Gilbert.
Oui.
Ah, j'ai une annonce. Il vient faire une conférence à l'église de Buc le 15 de ce mois. Je pense que c'est 20h30. Voilà. Vous avez l'annonce et je peux éventuellement emmener des gens dans ma petite voiture. Voilà.
Mais c'est... Oui, oui. Et donc, lui, je crois que c'est tous les lundis où il va s'enfermer dans un monastère. Et quand le dimanche soir, il y a quelqu'un qui lui téléphone en disant « Je suis au bord du suicide », il répond « Attendez mardi pour vous suicider. Là, je ne peux pas vous aider. Là, je suis en repos. » Et bien ça, c'est une attitude de Bodhisattva. Je suis désolé. C'est une attitude de Bodhisattva.
Parce que je suis chargé pour pouvoir aider.
Mais oui. Parce que s'il dépasse ça, eh bien, mardi ne pourra plus aider quiconque. Et ça, il y a beaucoup de sagesse dans ce comportement-là. Vous savez, Rinpoche, il dit oui, et à un moment donné, il se lève, hein, puis il disparaît dans sa chambre. À ce moment-là, c'est qu'il a besoin de se reposer, c'est tout. Mais les bodhisattvas ne vont jamais au-delà de leurs limites. Parce que quand ils vont au-delà de leurs limites, eh ben oui, ils tombent dans l'overdose et là, ça éclabousse tout le monde. Donc, il faut savoir en amont. Alors, le mois prochain, je serai donc en Inde. Ce sera Orien qui viendra. Alors, soyez sympa avec lui, hein, parce qu'il est, il est tout intimidé.
On va se...
Il aura fait d'autres centres, alors.
Et alors, normalement, c'est une soirée méditation avec questions-réponses. Mais vous ne lui direz pas, mais je pense qu'il a préparé quelque chose. Voilà. Non, mais je suis très content qu'il vienne parce que, franchement, c'était pas du tout, il y a quelques années de ça, c'était pas du tout ce que, Orien n'avait pas du tout envie d'enseigner de quoi que ce soit, quoi. Et là, franchement, il l'a proposé de lui-même, donc ça montre qu'il y a toute une évolution chez lui et il est très très content d'aller dans tous les chulings, etc. Donc, je trouve que c'est très bien.
Et nous, on sera contents de
nous. Ouais, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui pratique beaucoup, Orien. Vraiment. Il travaille beaucoup sur son esprit. Il est très très attentif à ce qui se passe dans son esprit. Il aime le dharma et il aime la pratique et il n'a jamais perdu. Depuis que je le connais, et ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît, il n'a jamais perdu son enthousiasme pour la pratique et pour les efforts à faire pour transformer son esprit. Plus rien ?
J'aurais une toute petite question.
Ah oui, j'ai une info, c'est vous deux.
Toute simple et toute bête. Comment se fait-il qu'il est plus facile, quand on a l'esprit qui est perturbé, à gérer un petit peu cela lorsqu'on est dans mon activité que lorsqu'on est en méditation? Certes, en méditation, on n'a rien d'autre à faire, mais ça ne nous change pas l'esprit. Mais est-ce que ce n'est pas négatif de ne pas...
Non, mais là, vous faites l'expérience que dans l'agitation... En fait, c'est plus facile à gérer, entre guillemets, c'est plus facile, mais parce qu'il y a des dérivatifs possibles. Que quand on est tout seul en méditation, il n'y a pas de dérivatifs.
Voilà. Il n'y a que le souffle.
Et oui, donc là, si on ne lâche pas, ça ne lâche pas tout seul. Parce qu'il n'y a pas d'objet de distraction qui nous fait croire qu'on a lâché.
Voilà. Mais il n'est pas bon d'en chercher un autre.
D'objet de distraction à ce moment-là. Ah bah si vraiment la méditation n'opère pas de transformation, bah là si on peut se distraire à ce moment-là. Ouais. Et juste une info, je ne sais pas si vous êtes au courant, Akong Rinpoche, vous savez, c'est lui qui avait fondé Sam Yeling en Écosse, en même temps que Trungpa Rinpoche. Donc à la fin des années 60 ou tout début des années 70, je crois qu'ils sont arrivés. Akong Rinpoche avec son neveu et deux autres lamas sont allés au Tibet. Ils ont été assassinés par les Chinois.
Ouais.
Il y a 3 semaines, un mois de ça, à coup de couteau.
Oh. Ouais. On sait par qui ?
par des Chinois, mais on n'en sait pas plus.
C'était marqué par des Tibétains
sur le site. Non, on m'a dit, moi, par des Chinois.
Sur Internet, parce que moi, du coup, j'ai voulu avancer, et à un moment donné, c'était marqué par des Tibétains.
Non, non.
Moi, ça m'a choqué encore plus, mais non. Comment ils ont pu faire ça
Le message du Karmapa, c'est par des Chinois. Après.
Ouais, alors, moi, j'ai surfé.
Enfin, voilà, quoi.
Il devait être âgé.
Et commencer un trajet, je pense.
Ouais. Ah, est-ce que vous êtes au courant d'une pétition qui est demandée de signer sur Internet par Avaz? C'est un organisme qui souvent prend des causes comme ça très très graves. Et actuellement, la Chine veut entrer donc au conseil de l'ONU ou de l'ONU, je ne sais trop quoi.
Oui.
Et
c'est au conseil pour les droits de l'homme.
Comment ?
Je crois que c'est le Conseil pour les droits de l'homme.
Oui, c'est ça, en plus de cela. Donc, il faut signer une pétition. Alors, moi, j'ai voulu vous l'envoyer à tous, mais alors, je n'ai pas les adresses e-mail.
Je l'ai fait.
Tu l'as fait ?
J'ai envoyé à tout le monde.
Tu l'as envoyé à tout le monde ? Oh, ben, c'est bien.
Donc, non, je ne sais
même pas. J'ai pas reçu encore. Hein.
Mais je l'ai envoyé peu de temps avant de venir.
C'est bien. Tu vois, je n'ai
pas une
idée. Voilà. C'est dramatique. Hein.
Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.